loi de sa ville natale. Si l'éducateur n'est pas, je dirais l'éducateur qui est identifié presque chez Aristote, enfin ça semble identique au législateur, n'est pas la seule manière dont le contemplatif pourrait intervenir dans le problème politique. Je dirais, puisqu'Aristote l'a fait lui, on peut se demander est-ce que ça ne serait pas la seule manière qu'effectivement le contemplatif, donc le philosophe, puisque, on l'a vu, tout le problème politique tel qu'Aristote le considère, ça implique une certaine vision de sagesse. L'éducateur, je dirais, ne peut être, dans la vision d'Aristote, qu'un sage. Parce qu'il faut qu'il voit tous ces éléments de manière synthétique et qu'il respecte la personne tout en visant le bien commun. Et tout en permettant à la personne de s'épanouir et de découvrir son bien personnel. Alors à ce moment-là, ça serait, je dirais, doublement tragique pour Aristote, parce qu'on a vu qu'il y a déjà la tension entre la philia et la contemplation, dont on a vu que dans l'éthique, il y a une certaine tension entre les deux qui est irréductible. Et là, je dirais qu'il y a une seconde tension, c'est que Aristote nous dit que le bien politique est le bien le plus divin et le plus beau, et puis à la fois, dans tout ce livre 2, il a comme, je dirais, un effarement devant la perversité humaine. Il explique à un moment que l'appétit de l'homme est infini, à Apeiron, et que la perversité humaine est un vase sans fond. Et ça, on le voit très fort dans le problème politique, qu'il est confronté, je dirais, au caractère, alors la phusis, d'une manière, je dirais, c'est, quand on relit le livre 2, c'est un caractère un peu tragique, pas les ambitions, mais le désir du philosophe et de la beauté de ce qu'il contemple, et puis de la matière face à laquelle il se trouve confronté dans le problème de la politique. Et c'est là qu'on pourrait se demander dans quelle mesure aujourd'hui est-ce qu'on peut refaire une politique comme celle d'Aristote. Alors pour finir, juste il y aurait quelques questions. Alors il y a le problème de la philia. La philia, ça implique un élément. Puisque la Concorde est une philia politique, qu'est-ce que c'est que la philia? Est-ce que la philia, c'est un lien simplement personnel? Est-ce que c'est plus extensif que je veux dire, est-ce que ça peut, c'est aussi quelque chose de communautaire? Est-ce que dans le livre 2, Aristote parle de la philia simplement d'un point de vue communautaire, ou est-ce que l'élément personnel est présent, ou bien est-ce que c'est nous qui nous faisons illusion et qui mettons de la personne dans tous les endroits? Il y aurait aussi à étudier le problème de l'un et de l'analogie. Est-ce que l'un n'est pas, bon, après l'être, ce qui est le plus analogique? Et puis, il y aurait tout le problème de l'éducation, dont Aristote dit que l'éducation se fait par les coutumes, éthos, la philosophie et les lois. Donc en fait, le livre 2 est plus intéressant qu'à première vue. C'est le problème qu'on a vu tout à l'heure, entre le point de vue génétique. D'un point de vue génétique, c'est vrai. Les liens personnels et la filia disposent à la concorde. C'est évident qu'une famille où tous les gens entre eux s'entendent bien, c'est plus facile qu'il y ait une unité commune que quand on ne s'entend pas. Mais d'un autre côté, d'un point de vue, je crois, d'un point de vue de perfection, c'est quand même le bien, je crois que même dans la vision d'Aristote, c'est quand même le bien communautaire qui est ordonné au bien personnel. Ça, je crois que le fait qu'il faut garder un temps libre au magistrat, ça me semble significatif. Si c'était simplement le bien commun, il n'y a aucune raison de garder un temps de loisir au magistrat. Ils sont pris par leur vie active, ils sont tout donnés au bien commun, il n'y a pas de raison qu'ils aient comme une surabondance. Mais effectivement, du côté génétique, c'est vrai que la filia est est une disposition très bonne à la concorde. Alors il faudrait voir si la concorde c'est homonoïa. Donc voir la concorde c'est plus du côté de l'intelligence.
Est-ce que dans le bien commun, ce qu'il dit, toi, autant il y a le bien personnel qui la filia avec bon, la concorde au niveau de la psyché comme une expansion. Et le bien commun, ça serait non seulement la filia, parce qu'elle fait partie, c'est je recherche le législateur, comme je le dis, mais en même temps, il y aurait ce point de vue beaucoup plus matériel et plus efficacité, un point de vue fachéré, qui serait la mise en commun au niveau de l'usage de la propriété.
Mais ça, je crois que c'est du côté de l'autarque. Une bonne répartition des propriétés et un juste communisme des biens, c'est-à-dire avoir certaines choses en commun et certaines choses personnelles, c'est du côté de l'autonomie. C'est le but de l'autonomie. Autarkeia, c'est être principe de soi-même. Donc c'est avoir une organisation dans laquelle il n'y a pas d'opposition. Donc c'est une question d'harmonie, d'équilibre, effectivement.
Ce que je veux voir, c'est qu'est-ce que c'est que le bien commun exactement ? Est-ce que ce n'est pas le bien personnel de chacun des individus qui permettra, mais alors, parce qu'il est source justement d'une entente et d'une mise en commun vis-à-vis de la propriété.
Mais à ce moment-là, des contemplatifs, les uns à côté des autres, devraient former une communauté. Moi, je ne le sens pas. C'est vrai, le bien commun, on ne le cerne pas absolument. Je ne crois pas qu'on puisse. Enfin, il me semble que c'est pas cerne. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette tension entre la communauté et le bien, il reste en permanence. Il n'est jamais. Je ne crois pas qu'elle soit résolue totalement. Parce que la cité, c'est un tout, mais qui est composé de personnes. Et donc, je crois que le bien commun, on l'aborde par deux versants, je dirais. Mais on ne peut pas le cerner absolument. Alors, c'est vrai que dans une vision plus de sagesse, c'est plus la concorde, mais indissociable du point de vue de l'autarcie.
Mais oui, mais justement, c'est parce que la concorde est source, du point de vue, est source au niveau de l'usage.
Mais est-ce qu'elle est source ? Est-ce qu'on peut mettre un ordre par. Est-ce qu'on peut dire que la concorde est source de l'unité ? Est-ce que d'un autre côté, l'unité n'est pas source de concorde ? C'est le problème. Est-ce qu'une communauté où les gens s'entendent bien, mais où ça ne fonctionne pas du tout, donc où il y a une concorde, mais pas d'unité, est-ce que ça peut durer ? Alors il faudrait voir tout le point de vue chrétien, de voir comment est-ce qu'une communauté contemplative peut vivre en mettant tout en commun. Et de voir aussi comment le point de vue de l'autarcie et de la concorde sont unifiés par le point de vue contemplatif. Si en tant que telle, elle implique l'unité, elle est, je dirais, elle est le signe de l'unité. Mais elle n'est pas le seul aspect de l'unité. Elle n'est pas. L'unité, elle se fait effectivement du côté de la pensée une, du fait que tout le monde a concordat, je ne sais pas si ça veut dire le cœur, hein, je sais pas si c'est la même chose que concordia, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire en latin. Mais en grec, c'est la pensée une. Donc Aristote dit dans l'éthique, c'est d'être d'accord sur les choses politiques importantes, sur les décisions importantes.
Alors c'est une du côté des intentions, je crois.
C'est ça. Mais je crois qu'il est nécessaire aussi qu'il y ait une certaine unité concrète.
Est-ce qu'il y a un lien qui unit le point de vue du soulignageré et fachéré ? Est-ce que dans la communauté politique, il y a les deux ? Il y a le point de vue de la gérée et du fachéré. Ils sont dans la coopération.
Oui, bien sûr, ils sont pas. Ils sont.
Est-ce qu'on peut découvrir un lien entre les deux ?
C'est la coopération. C'est précisément la politique, c'est ça.
Oui, d'accord, mais qu'est-ce qui fait le lien entre les deux dans la coopération ?
C'est à la fois.
C'est l'idée de la libéralité, justement.
Qu'est-ce qui fait la coopération ?
Oui, il y a une mise, je pense. Ce que je voudrais comprendre, c'est le lien entre agérer et fachérer dans la coopération.
C'est le propre du problème politique, c'est précisément, de fait, il y a un lien, parce qu'il y a une mise en commun. Je crois que la koinonia en tant que telle, donc la communauté, Aristote dit bien, le début de ce livre 2, c'est il est nécessaire de mettre quelque chose en commun. Sinon, ce n'est pas une communauté. On a au moins en commun le lieu dans lequel on se trouve. Là, il est d'accord d'ailleurs là-dessus avec la. C'est par là que ça commence. Et ben, on pourrait peut-être effectivement étudier si d'un point de vue génétique, simplement un lieu commun, ça implique pas un élément d'être géré, un élément de ne pas être géré.
Mais c'est quoi, c'est un peu la même chose, c'est que quoi Aristote avait l'air de dire que c'est parce que je possède la propriété, donc c'est séparé, c'est pas le point de vue de quelque chose en commun,
oui.
Hein, mais parce qu'il y a l'amitié, je vais pouvoir le mettre en commun dans l'usage avec mes amis.
Je crois pas que ce soit simplement l'amitié, puisqu'on a vu dans le livre 1 que simplement pour vivre, j'ai besoin de mettre en commun certaines choses. Est-ce que simplement pour la survie sans l'amitié, j'ai pas besoin de mettre des choses en commun?
Si, c'est d'accord.
Je crois pas qu'on puisse dire que la filiale est un rôle de principe par rapport à la mise en commun.
Ah, oui, pas principe fondamental.
Je crois qu'elle a un rôle de disposition, du côté de la surabondance. Elle permet une meilleure mise en commun. Surtout que bon, la filiale, c'est quand même des liens. Enfin, c'est quand même des liens d'abord personnels. C'est du côté. C'est pas du côté. C'est sûr, les amis ont tout en commun, mais c'est du côté d'intention et d'amour. Plus que de...
Non, c'est d'accord.
Oui, ça.
Quel est enfin, principalement, enfin, tout ce que tu as dit, ce que tu penses être le centre, quoi, le plus direct
C'est le début. C'est ça. Je crois que c'est ça qui fait. C'est au début, c'est le début du livre de la poésie, quand il dit la communauté, il faudrait qu'on relise, mais quand il lit le point de vue de la communauté, le point de vue du bien. Alors on pourrait revenir au problème, savoir est-ce qu'il y a une nouvelle induction. Toute communauté est constituée en vue d'un certain bien.
Je crois que c'est ça. Enfin, dans le livre, c'est ça qu'on pourrait demander, c'est le problème, est-ce qu'il y a un principe propre politique ?
Ça veut dire qu'à partir de ça, que le reste s'organise.
Oui, parce que ça, c'est le fait fondamental de la communauté. De la communauté humaine. C'est qu'il y a un certain nombre d'éléments, un certain nombre de personnes, et il y a un bien. Et je dirais tout va se tisser entre les deux. Et c'est parce que c'est pas simple au début, parce que c'est dur au début, c'est pour ça que c'est complexe partout. Et c'est ce qu'on voit, le fait que le bien commun a quelque chose de transcendant, quelque chose d'immanent. Alors que du côté de l'intelligence, ça va, parce que du côté de l'intelligence, il y a l'intelligence, et puis il y a la chance. Thierry, on est dans le même genre.
Est-ce qu'il y a un autre directeur qu'on pourrait comparer dans la République ?
La République, oui. Est-ce que dans la République, est-ce qu'il y a le point de vue de la communauté, ou est-ce que c'est pas l'individu qui prime tout parfait ?
Puisque dès le début, il dit, pour comprendre l'individu, on va regarder la cité. Sous-entendu, c'est en regardant la cité qu'on va comprendre l'individu, donc c'est exactement la même chose. Si c'est simplement pour lui, si précisément c'est simplement une question d'organisation, chez Platon c'est une question d'harmonie au niveau formel. Alors que je dirais qu'Aristote, il n'évite pas la perversité humaine. Platon c'est complètement, tout le monde va être frère. Ouais, non, il faut pas exagérer, il reconnaît quand même qu'il y a des petits problèmes.
Vous avez souligné par rapport à notre monde d'aujourd'hui cette chose curieuse sur laquelle peut-être serait bon de réfléchir. Si on essaie, en lisant la politique d'Aristote parallèlement à la République de Platon, de comprendre un peu ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui, on peut dire que l'économie pour Aristote est rattachée à la famille. Et l'éducation est rattachée à l'État. Or, de fait, selon le développement, on peut dire que l'éducation est rattachée à la famille, pour nous, et l'économie est rattachée à l'État. Comment expliquer cette espèce de transformation qui s'est faite, hein? C'est au fond, de fait, ça y est, on ne va pas se battre. Dans le monde d'aujourd'hui, je dirais, au point de vue chrétien, on ne se battra pas tellement du côté économique. On dira, vous c'est forcé, l'économie devient tellement complexe que l'État prendra une place très grande, on voit bien, et c'est très difficile de faire autrement. On dira, tout système économique, du bon et du mauvais, ça se jouera à peu près, qu'on soit de droite ou de gauche, ça revient à peu près au même jour, ça revient. Mais au point de vue éducation, c'est tout à fait différent. Il y a deux conceptions totalement différentes, et qui restent très nettes. Vous voyez ? Vous voyez la
logique. Oui, j'aime bien. Oui. Et je me demande si le problème, c'est pas le fait que, je dirais, Aristote l'a pas presque déjà dit, enfin, c'est, on a surdéveloppé le côté de. Je crois que le point de vue économique, il est du côté de l'autarkeia, du point de vue du Thatcherisme. Et qui s'étant surdéveloppé, bon, je dirais, a menacé l'autre, a complètement phagocyté le point de vue de la concorde. La concorde, elle s'est faite par l'unité. Alors, du coup, pour récupérer, comment on pouvait plus récupérer la concorde par rapport à l'autarkeia, parce que l'autarkeia prenait tout, il a fallu revenir, je dirais, d'une manière fondamentale à la filia par rapport à la famille, parce que, je dirais, à ce niveau-là, tout est un peu détruit. C'est que je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire encore une philosophie politique du côté de...
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le point de vue économique déborde complètement l'autarkeia.
C'est ça.
Parce que l'économie s'est internationalisée.
C'est ça. Alors l'autarkeia, elle est mondiale.
Tout a sauté.
Il n'y a plus d'autarkeia.
C'est ça. C'est le Thatcherien qui a...
Parce que l'autarkeia s'est relativisé de plus en plus. Au fond, le problème de la personne s'est intériorisé de plus en plus. C'est vrai, ça. Il y a une intériorité. Le point de vue chrétien donnait à la personne un problème beaucoup plus profond. Et le problème de la famille, par le fait même, a pris une importance aussi beaucoup plus grande dans l'amitié de l'époux et de l'épouse. Même, je dirais progressivement, mais au fond, au début, le mariage, c'est presque des alliances familiales, hein, en Israël. Tandis qu'aujourd'hui, de plus en plus, le problème du mariage devient quelque chose de beaucoup plus personnel, et on assiste sur le point de vue beaucoup plus de l'amour des conjoints. Et par le fait même, le mariage, le foyer, la famille, va garder un problème beaucoup plus personnel que lui, au point de vue de l'amour, et il y aura une jalousie beaucoup plus forte sur l'éducation en fonction de la foi à transmettre. Je crois qu'en réalité, c'est ça. Pourquoi la famille chrétienne désire tellement sa liberté au point de vue de l'éducation, c'est qu'elle se sent responsable de la transmission de la foi. Et qu'elle sait très bien que si on est livré à une éducation purement civique, si vous voulez, et d'un État qui est matérialiste, d'un État qui est plutôt anti-chrétien ou anti-religieux, les enfants ont beaucoup de peine à garder la foi. Alors est-ce que c'est là le problème de la foi qui, le problème de la grâce, comme on vient de dire, qui va changer complètement l'équilibre?
C'est face à Platon, Aristote face à Platon, il y a peut-être déjà une petite amorce de ça, c'est que la filia, enfin c'est frappant quand même, l'insistance sur la filia au beau milieu de la politique.
Ah, on serait du côté platonicien, on n'a pas moyen de s'en sauver.
Le problème, c'est est-ce que depuis Aristote, la perversité humaine, vous voyez, au niveau communautaire, c'est pas encore développé. Aristote, il est presque dans une situation limite. Hein. Est-ce qu'Aristote, dans quelle mesure est-ce que l'éducation qu'Aristote a donnée à Alexandre a porté ses fruits?
Et puis Aristote n'a jamais été appliqué absolument. Hein.
C'est ça.
Au fond, au sens, il dit, il réfléchit en philosophe, il est beaucoup plus proche du réel. Et comme Platon, mais c'est quand même de la philosophie. Il ne nous dit pas ce qui se passe. Il nous montre ce qui devrait se passer. Comme un peu en éthique, n'est-ce pas? Et c'est forcé, je crois que le propre d'une philosophie éthique et le propre d'une philosophie politique, c'est quand même pas uniquement de constater ce qui se passe et dire voilà, c'est parfait. Il y a toute une conception de la nature humaine et de la finalité qui est présente. Donc, qui dépasse le fait existentiel en nous montrant ce qui devrait exister, le bien commun. Alors moi, ça me frappe beaucoup, ça, cette chose, vous voyez, cette espèce d'importance. Alors d'où ça vient? Alors est-ce que c'est le problème de la foi qui vient transformer beaucoup les relations entre famille et cité, ou famille et internationale, en donnant une importance beaucoup plus profonde à la personne humaine et à la transmission de la foi? Et enfin, la parole du pape, quand il dit que la famille est une église domestique, rendrait assez compte de ça. C'est que la famille est devenue église domestique. Et alors, en devenant église domestique, la famille a le souci primordial, la famille chrétienne, un souci primordial de garder la foi et de sauver la foi. Et à ce point de vue-là, l'éducation prend une importance beaucoup plus grande. Parce que l'éducation, c'est la transmission de foi. Ça devient quelque chose de primordial.
Je vais vous poser une question, parce qu'au fond, Aristote fait une philosophie politique qui est régulée par une éthique humaine. Alors d'après ce que vous dites là, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faudrait faire une philosophie politique qui serait régulée par une éthique chrétienne ? Il faudrait télescoper
les niveaux. C'est-à-dire, oui, il n'y a pas de politique chrétienne, je crois, au sens rigoureux. Mais il y a un équilibre nouveau de rapport entre famille et État. Aristote dans les fondements les fondements des rapports entre la famille et l'État, mais il ne va pas jusqu'au bout. Il me semble que le problème proprement du bonheur personnel, qui est disons, très grande lumière avec l'Évangile, va donner par le fait même une importance énorme à la filia. Charité fraternelle devient quelque chose de beaucoup plus important, et une importance très grande à l'éducation, qui sera beaucoup plus rattachée à la foi. Et alors, il prend une valeur qu'elle le garde, et ce qui exprime au fond toujours un tout petit peu cette espèce de tension entre la famille et l'État, dans la mesure où l'État n'est plus chrétien. Un État socialiste qui n'est plus chrétien, qui ne veut plus faire des preuves du chrétien, qui tend vers l'unité. Parce que dans le socialisme, il y a quand même toujours un peu un primat de l'unité. C'est dans ce sens-là que le socialisme est plus proche de Platon que d'Aristote. Parce qu'on recherche plus l'unité. Vous voyez, dans l'éducation, par exemple, les arguments qui donnent au point de vue de l'éducation, c'est très net, c'est l'unité. C'est pas du tout le bien du citoyen. C'est l'unité de l'État. C'est l'unité de l'État qui prime tout le temps, tout le temps. Alors, les arguments que prennent les bons catholiques sont souvent très aussi, parce qu'ils ne savent pas très bien, exactement ce qu'il y en est. Et au fond, c'est sauver, je crois, le point de vue de la personne humaine et la liberté de la personne humaine de pouvoir opter et choisir quel est son bien.
Est-ce que la famille ne serait pas le vrai tout ? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a plus de tout ? S'il est mondial.
Seul tout, c'est la famille. Le fondement devient presque la finalité. Dans une politique chrétienne, un véritable État qui respecterait parfaitement la famille chrétienne, est-ce qu'au fond, la finalité de l'État ne serait pas de favoriser la famille chrétienne ? Oui, plus en la famille chrétienne, en comprenant le développement plénier de la personne humaine. Vous voyez, la famille, la famille et le développement de la personne humaine. Permettre à la personne humaine un développement plénier. Oui. Et c'est ce qui fait le problème très difficile. Quand je dis prendre personne humaine, je prends le point de vue artistique, je prends le point de vue problème contemplatif, qui dépasse de beaucoup la famille. Oui. Mais la famille étant la base. Et au fond, la famille pouvant seule, d'une certaine manière, maintenir cette liberté. C'est curieux, il y a des problèmes qui...
Dans la famille, les liens entre les personnes de la famille sont nécessairement des liens qui impliquent une certaine filière. Alors que on a bien vu dans le livre 1 qu'il y avait les parents et les enfants, l'homme et la femme, mais aujourd'hui, les dirigeants dirigés, je dirais, c'est un problème qui est spécifiquement politique, qui n'est pas nécessaire à la famille.
Qui n'est plus essentiel à la famille. Qui n'est plus le problème rattaché immédiatement à la famille. Qui a pris une autre importance.
Il faudrait voir si aujourd'hui, ce problème-là, dirigeant-dirigé, c'est pas ce qui polarise toute l'attention. C'est le problème de la lutte des classes.
C'est tout le problème de la lutte des classes dans une certaine perspective, mais vous voyez, il y a un autre problème qui redevient très fort, c'est le problème de la liberté de l'éducation.
C'est ça.
Moi, ce qui me frappe, alors au point de vue purement sensibilité d'aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est que je crois que les chrétiens sont capables de se battre pour l'éducation libre. Et jamais pour le point de vue économique. Ils ont raison, du reste. Parce qu'au point de vue économique, tout le monde le dit, hein, l'économie internationale mondiale fait que. Où est la justice, hein? Qu'est-ce qu'il nous dira? Tandis que la liberté de l'enseignement, on sent que ça touche à quelque chose de très très profond, comme réaction humaine, vous voyez? Ça me frappe beaucoup quand on regarde Aristote. L'éducation comme vous dites, c'est proprement politique, hein, vous avez insisté, et c'est vrai. C'est ça qui fait l'unité. Ça fait l'unité.
Et la foi, c'est au-delà, parce que ça permet à la... C'est ordonné quand même, chez Aristote, on le voit, à la personne. Oui, ça se propre d'être... C'est vrai que c'est très difficile au niveau formel de situer l'éducation.
Très difficile. Et chez Platon, vous voyez, c'est deux problèmes communs. La païdéia, chez Platon, est aussi capitale. La païdéia, chez Aristote, est aussi capitale. C'est là où il y a une rencontre des deux. Et évidemment, deux conceptions de païdéia très très différentes, mais une rencontre. Tous les deux considèrent que la païdéia, c'est essentiel. Les socialistes considèrent que la païdéia, c'est essentiel pour l'unité de l'État. Et au nom de l'unité de l'État, il faut que l'éducation soit commune. Autrement, il n'y a pas possibilité d'unité de l'État. Et le point de vue chrétien qui dit il vaut mieux pour un plus grand bien que l'unité de l'État soit pour sauvegarder une éducation libre.
L'unité de voir si.
On risque pas d'accentuer un certain déséquilibre en insistant trop sur l'éducation, en oubliant précisément, enfin, ou en laissant un peu tomber le côté économique. Est-ce qu'il ne faudrait pas défendre les deux?
Oui, mais ce que je constate,
se battre pour les deux.
Non, je constate la sensibilité d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est je ne pense pas. Il faudrait réfléchir au point du problème. Oui. Je constate la sensibilité d'aujourd'hui. Ça me semble assez vrai. Je ne sais pas, dans les conversations que j'ai avec les industriels, avec tous des points économiques.
Est-ce que de ce que vous dites, de cette volonté de se battre sur l'essentiel, est-ce qu'il n'y a pas un certain réveil assez récent, en fait? Parce que, à certains points de vue, si on en est arrivé là, est-ce qu'il n'y a pas eu précisément une espèce d'endormissement général sur ces questions-là, qui se réveille actuellement? Mais c'est assez neuf, le réveil, sur ces questions-là. Les questions de l'éducation, de la transmission de la foi. Est-ce que c'est justement pas par démission collective qu'on n'en est pas... On est arrivé là par une espèce de...
Et c'est le tarpeillant, on peut encore se
là-dessus. C'est un problème qui serait intéressant une fois en question disputée à ça. Parce que c'est des problèmes qui sont d'abord très actuels. C'est des grands problèmes devant lesquels nous allons nous trouver. Ça, j'en suis sûr. C'est ces problèmes-là. Et c'est ces problèmes-là qui sont importants pour nous à voir. Parce que... Vous voyez, c'est comme... Je me souviens, il y a quelques années, j'étais présent ici, il y a longtemps, on m'avait demandé dans une communauté religieuse... de dire un peu pour la question du vote, hein, difficile, pour qui faut-il voter. Si on prend les principes de l'Église, en tant qu'un religieux, une religieuse, normalement, ne doivent plus voter. Ceux qui sont morts, cités, ne peuvent plus voter. Ça, c'est un religieux principe. Quand je suis arrivé à Fribourg, je me souviens très bien des grands poètes français qui étaient passés la frontière, et qui venaient nous demander si vous pouvez les traiter, on leur disait oui, demandait un billet de lettres au gouvernement. Le gouvernement renvoyait les lettres en disant vous êtes religieux, votre signature ne vaut rien. Il faut la signature du supérieur. Très bien. Alors, j'ai dit, c'est passé la frontière et donc j'étais en Suisse. Et je vous dis ça, et au fond, c'est quand on Fribourg. Hein. Quand on Fribourg, on pratiquement on vit un concordat. Vous avez de facto avec l'Église. C'est très vrai que quand il s'agit pour un religieux ou pour une religieuse de voter, on doit être attentif à ce point de vue-là. C'est qu'au point de vue justice et injustice, comme c'est difficile quand vous consultez des vrais économistes, comme c'est difficile, très très difficile. Il y a un point qui me semble toujours extrêmement net, un gouvernement qui respecte la liberté dans ce domaine. L'Église demande. Et ça, c'est si je suis fidèle à l'enseignement de l'Église, je n'ai pas le droit de dire je m'en fiche. Je n'ai pas le droit. Et l'Église maintient ça. Alors, c'est très significatif comme vous voyez, point. Parce qu'on est proche de l'Église qui maintient la foi. On pourra maintenir la foi à travers des régimes politiques divers au point de vue économique, tandis qu'au point de vue éducation, ce sera beaucoup plus difficile. On touche tout de suite à quelque chose. C'est ça que je veux dire. Hein. Et ça me semble curieux parce que c'est juste l'inverse de ce qui se passe comme équilibre avec la politique d'Aristote. Oui. C'est ça qui est intéressant à voir. Pourquoi il y a eu ça, comment ça s'est fait. Oui.
Est-ce qu'au niveau économique, on n'a pas atteint justement la corruption dont parle Aristote dans
ce corruption.
Bon, c'est l'aspect de la richesse et l'aspect de justice quantitative au niveau de l'argent.
Tout à fait. Des deux côtés.
C'est difficile de la sauvegarder. Donc en fait, il n'y a plus d'autarcie. Donc, oui, oui. On se rabat sur la durée. Et sinon, sur la filière.
Sur l'efficacité.
Oui, ça. Donc on peut sauvegarder, c'est la filière, c'est la concorde, c'est l'éducation. Mais on ne peut pas récupérer en fait l'aspect de l'économie.
Il y a plus que ça. Il y a un nouvel équilibre. Moi, je suis persuadé qu'il y a un nouvel équilibre. Là, c'est uniquement, vous voyez, c'est de facto. Il y a quelque chose de plus, je crois.
Les deux sont liés au point qu'il ne faut surtout pas les séparer.
Ah, il faut les distinguer.
Il faut distinguer, mais surtout pas
les... Oui, mais point de vue philosophique, il faut absolument les distinguer. Et il y a un renversement, c'est ça qui m'intéresse. Vous voyez, il y a un renversement. Quand je regarde la politique d'Aristote, quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui, puisque c'était la question que vous me posiez, et il faut se la poser, parce que c'est très intéressant de voir ce qu'Aristote pense, mais c'est aussi très important de voir dans notre monde d'aujourd'hui quels sont comment comprendre tout cela. Vous voyez ? Alors c'est quand même très curieux de voir que tout point de vue, le problème économique est lié à la famille, et le problème de l'éducation, ça c'est typiquement grec, c'est très bien, c'est le travail de la roue, sur la Païdéia, qui est un livre à lire. Ceux qui savent qu'ils n'ont pas le temps, c'est le livre de la Païdéia, de l'éducation chez les Grecs, qui est un gros bouquin, et qui est très important et intéressant, parce que ça montre combien la Païdéia, dans le climat grec, était une chose capitale. Et ça définissait presque le temps.
Et Aristote dit même, les gens qui actuellement éduquent leurs enfants dans la famille, c'est pas ça qu'il faudrait faire. Il faudrait que ce soit l'État qui éduque actuellement tout le monde.
C'est ça. C'est très...
Il semble quand même que le point de vue d'Aristote reste fondé, parce que vous pouvez, en défendant les droits de la famille, sauvegarder une liberté d'enseignement, enfin un gouvernement peut se proposer cette tâche, mais le problème de l'éducation déborde complètement ce que la famille peut faire.
Oui, oui, oui. Non,
mais... Donc il y a un problème d'éducation qui reste à un niveau politique.
Tout à fait. Le problème de l'éducation restera toujours un problème politique, mais... Ce que je veux dire, c'est que l'intervention de la famille par le point de vue politique prend une acuité beaucoup plus grande dans la famille chrétienne à cause de la transmission de la foi. Vous voyez ? Autrement dit, c'est le point de vue de vertu théologale, si vous voulez, par rapport aux vertus morales. L'État ne peut que permettre une concordia, une certaine filia, et donc les vertus morales. L'État ne peut regarder comme ça.
C'est pour ça que la contemplation.
Quoi ?
C'est pour ça que l'État ne dispose pas de la contemplation.
Non, il ne peut pas. Il peut regarder le point de vue moral. Oui, alors, comme en terre chrétienne, l'équilibre entre les vertus théologales et les vertus morales est quelque chose de tout à fait nouveau, le point de vue d'éducation va prendre quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui me semble intéressant de souligner.
Vous dites qu'il va prendre justement une acuité plus grande, mais est-ce que c'est pas. Devrait prendre, parce que quand on regarde ce qui se passe actuellement, enfin à l'heure actuelle, il y a quand même une démission, même chez les chrétiens, et surtout chez les chrétiens, une démission généralisée qui s'est réveillée depuis peu de temps, mais pas partout, et qui en fait
s'est réveillée, mais quand on voit les voix de tombe, il y a eu constamment ça, il y a constamment cette espèce d'attaque, et ce réveil se fait toujours là, moi c'est ça qui me frappe.
Oui, mais le réveil se fait généralement, mais en fait ça se passe. Le réveil se fait occasionnellement, justement.
Ah, il se fait occasionnellement parce que c'est toujours la même chose. C'est comme dans le peuple d'Israël. Je crois que le peuple d'Israël s'endort. Dieu suscite le Philistin.
Enfin,
il y a quelque chose d'analogue. On s'endort tout le temps. Vous voyez ? Mais ce que je veux souligner, c'est ça qui me semble intéressant et qui me semble, comme tout ça, bien voir, c'est cette importance de la transmission de la foi. Mais qui est quand même le lieu privilégié.
C'est vrai que pour Aristote, la famille, c'est un métaxube par rapport à la cité, alors que pour nous, la famille, c'est un métaxube tout de suite par rapport à la personne.
Ah, bah, c'est ça. Beaucoup plus. Il y a un métaxube par rapport à la personne, et si on est chrétien, un métaxube par rapport à
Dieu. Ouais. Alors, pour Aristote, chez Aristote, ça
passait toujours par la cité. Du pape, l'église domestique, vous voyez, que la famille est église. Vous voyez. C'est quand même très nouveau, et ça a fait bondir certains, hein, qui ont dit, ah non, là, le Saint-Père, il exagère, on n'a pas le droit de faire ça. Et que le Saint-Père le dise comme ça, parce qu'en fond, il n'y a pas de théologie de famille, hein, ça n'a jamais existé. Et c'est le pape actuel, le premier, qui veut donner une théologie de l'Église. je viens d'éliminer la famille en disant la famille est une église domestique. Alors je crois qu'en mettant l'église domestique, vous voyez, il met une importance énorme sur le point de vue, exactement comme la famille vit le mystère du Christ dans les grandes fonctions du Christ, la famille doit vivre les mêmes fonctions. Alors ça donne à la famille une espèce de valeur beaucoup plus profonde comme au niveau de l'église. C'est ça qui m'intéresse, c'est de voir le lien avec le point de vue philosophique. Parce qu'il y a un lien, il ne peut pas être autrement. Toute théologie repose sur la philosophie. Et c'est pas si normal.
Est-ce qu'on ne peut pas agir indirectement sur l'économie en redéfinissant le sens du travail?
Oui, sûrement. Parce que le point de vue économique, le point de vue, ce n'est que par le travail qu'on voit le point de vue philosophique. L'économie comme telle n'est pas philosophique. Elle est philosophique par le travail. Et donc c'est par le sens du travail que vous pouvez transformer.
Parce que ça joue quand on parle un peu d'incarnation.
Oui, tout à fait.
C'est un problème qui devrait jouer, qui est difficile à mettre en place par rapport au chrétien. C'est un domaine sur lequel il n'accepte pas trop de
choses. C'est vous qui frappez quand
c'est bon.
C'est vous qui frappez vous-même. Je ne sais pas si je peux faire. Merci. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs.